La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Comme nombre d'autres domaines d'activité, le cinéma s'est trouvé chamboulé par la grande mutation numérique. Il serait pourtant très exagéré de penser que les modes de production et de réception des films aient été radicalement transformés lors de ce basculement. C'est plutôt l'histoire d'une longue continuité qu'il s'agit d'écrire pour comprendre le rôle du cinéma, en partant bien sûr de la machine projecteur. Et c'est ce à quoi s'attelle Jean-Louis Comolli. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Une suite dans les idées avec une deuxième partie, comme toujours, avec cette fois une réalisatrice de cinéma, Dominique Cabrera, qui nous rejoindra pour dialoguer avec Jean-Louis Comolli. Bonjour Jean-Louis Comolli.
Bonjour.
Vous êtes vous-même réalisateur de cinéma, oui. Mais vous êtes aussi un penseur du cinéma, comme souvent, ou
on essaye.
Parfois, les réalisateurs, un critique de cinéma, et vous publiez aux éditions de l'École Normale Supérieure, ENS Édition, Cinéma Numérique Survie. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle contribution qui nous permet de tenter de comprendre ce qui nous arrive avec le numérique, oui. Et surtout qui ne tombe pas dans le panneau du tout nouveau, qui est évidemment le discours qui est celui du marketing, de toutes ces sociétés qui veulent nous vendre des nouveaux produits comme radicalement nouveaux. En fait, pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut aussi faire de l'histoire, faire de l'archéologie des médias, de la généalogie, ce à quoi vous employez, Jean-Luc.
Mais oui, c'est vraiment ça, parce que au fond, les médias audiovisuels ont une histoire. Cette histoire, personne n'y pense trop parce qu'on n'en a pas besoin, mais quand on réfléchit à ce que c'est aujourd'hui que cette vague numérique qui envahit le monde entier, bah oui, là, c'est pas tout à fait, c'est la même chose et c'est pas la même chose avec les médias. Pourquoi? Parce que ça passe par le visible, alors que l'alignement des chiffres d'un algorithme, bon, il n'y a rien de visible, évidemment, bien sûr, et donc une grande partie de la numérisation du monde n'est pas visible. Elle a des effets, bien sûr, qui eux sont visibles, mais le processus, lui, reste à l'intérieur des data centers ou des ordinateurs puissants. Alors que
c'est pas votre objet. D'ailleurs, vous notez juste le passage, finalement, le mot à retenir dans l'intelligence artificielle, c'est artificiel. Mais en fait, votre objet,
c'est le visible. Moi, je m'intéresse d'ailleurs à la suite de Serge Danet et de quelques autres. Je m'intéresse au visible, les machines du visible. C'est le titre d'une conférence que j'avais faite il y a 40 ans dans une université américaine. Bon, voilà. Déjà, pour des raisons qui m'échappent un peu, bien sûr, mais j'étais très intéressé par les machines et les machines du visible.
Très tôt, parce que, en fait, là, ce livre fait écho à des articles que vous avez publiés au début des années 70 sur ces questions de machines, de techniques, qui insistent sur des choses qui ont été relevées depuis par des tas de chercheurs. On peut noter une certaine proximité avec les travaux d'Yves Citon aujourd'hui, par exemple.
Tout à fait, oui.
C'est-à-dire le fait de considérer les médias comme des techniques d'enregistrement et de diffusion en même temps, et éventuellement de calcul. En tous les cas, cette machine projecteur avec laquelle vous commencez, elle est déjà double.
Elle est déjà en avance, si j'ose dire, sur la pensée du cinéma. Et c'est le seul philosophe à avoir saisi cette avance, c'est Bergson. Henri Bergson a écrit en 1906, déjà, à propos du cinématographe inventé, mis au point par les Lumières 10 ans plus tôt. Donc il a fait preuve d'une précocité exceptionnelle et d'une clairvoyance. Et la thèse de Bergson, pour expliquer ça en deux mots, c'est que la machine cinématographique telle que les frères Lumière l'avaient mise au point et telle que Bergson pouvait l'avoir fonctionné, cette machine fonctionnait sur des principes philosophiques. Voilà. C'était un philosophème en acte, en matière. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait l'analyse et la synthèse. Analyse du mouvement d'un côté, c'est un processus d'analyse conceptuels que les philosophes forcément mettent en jeu, notre cerveau met en jeu, et puis la synthèse, au sens où on reconstitue ce qui a été divisé. Voilà. Donc séparation et réunification. Ce double processus, Bergson a très justement pensé tout de suite que c'était le processus de la pensée. Voilà, que la pensée fonctionnait comme ça. Et que donc, que dans la machine cinématographique, il y avait un écho, au fond, du travail de la réflexion, du travail de la pensée, et donc de son propre travail en tant que philosophe. Et cette coïncidence a été ensuite, vous le savez, relevée par Gilles Deleuze, qui en a fait un peu son principe, lui aussi. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que penser que la première caméra, le cinématographe des Frères Lumière, ait été déjà une manière de penser, une manière de concevoir le monde, ça renforce l'hypothèse qui est venue peu à peu, qui était que le cinéma n'est pas seulement là pour représenter le monde, il est là pour le transformer, pour le formater à sa manière. Et l'image produite par les machines du visible est une image qui ressemble à ce que nous voyons avec nos yeux, mais seulement ressemble, parce qu'en fait elle propose une version supplémentaire et même une version intermédiaire qui fait que on va voir le monde autrement. Sur un écran cadré, dans une salle de cinéma où le noir est fait, etc. Et que cette autre vision du monde va nous permettre de la mettre en rapport avec notre vision ordinaire, celle qu'on a dans la rue, quand on marche, etc. Et que le rapport des deux fait comprendre, même sans qu'on le pense, nous fait assister à quelque chose de productif. Voilà.
C'est-à-dire qu'au fond, le cinéma est un opérateur, un opérateur de la transformation du monde au cours du XXe siècle, et ça continue.
Voilà, alors c'est ce que j'ai tenté, avec mes moyens qui sont faibles, j'ai tenté de voir en quoi le cinéma avait touché à tout. Très tôt, on n'y pense plus. Bon, l'exemple le plus grossier, c'est le porno, évidemment. Bon, dès que le cinématographe Lumière a été mis au point et a pu circuler un peu, loué à des montreurs, y compris à des montreurs de foire, eh bien, très vite, les films porno sont apparus, presque immédiatement. Donc, à l'intérieur de la couche visible du monde, il y avait aussi tout de suite sa perversion, son utilisation à des fins peu avouables, et ça marchait très bien. Les premières images faites par le concurrent de Lumière, qui était Edison, c'était des vues pornographiques, enfin entre guillemets. C'est évident que le porno d'aujourd'hui a écrasé ce porno d'hier, mais néanmoins, voilà, c'était là.
C'était déjà présent. Alors ces vues, vous y arrêtez, je pense notamment à des vues comme la destruction d'un mur. C'est très intéressant et très important de revenir sur ces images, premières images, parce qu'au fond, on a du mal à comprendre à quel point ça a pu être des chocs, tellement ces choses sont devenues des évidence pour nous.
Pour nous, c'est devenu familier, disons, alors que pour les premiers spectateurs, c'était très impressionnant.
Alors, racontez-nous de quoi il s'agit. Bon, c'est une vue des Frères Lumière.
Alors, Louis Lumière, qui est le cinéaste de la famille, disons, Louis Lumière a filmé un événement anecdotique qui consistait en la destruction d'un mur de l'usine dans laquelle, qui était la leur, d'ailleurs, et la légende dit que au moment de la projection,
il y a une erreur.
La bobine a été rembobinée et que ce rembobinage a été visible et que donc le film est passé à l'envers. Et donc les spectateurs ont vu
par
le
accident,
mur tomber. Oui, par accident. Bon, une erreur de manipulation, dit la légende. Je suis pas sûr que la légende soit vraie. Toujours est-il qu'il y a eu deux temps. Un premier temps où le mur tombait, poussé par des ouvriers.
Ce qui avait été enregistré par la machine.
Voilà. Et puis le deuxième temps où cet enregistrement passe à l'envers. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Le mur se relever. Et là, évidemment, c'est une sorte de miracle. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Qui existait dans les têtes. Dans les romans, dans la littérature. Oui. Voilà. L'imagination avait déjà renversé tous les murs. Et les avait relevés aussi. Alors que là, on le voit, c'est ça. Ça passe au visible.
Ce qu'on ne pouvait faire qu'avec les mots,
voilà,
devient
avec
possible
avec les idées.
Voilà.
Ouais. Et là, brusquement, c'est du visible. Donc quelque chose qui nous touche autrement, qui nous affecte autrement. Et là, ça a été un événement. Les gens étaient fous. À tel point que la légende continue de dire que Louis Lumière, devant ce succès inattendu, a décidé de le fabriquer, ce film, avec une première partie qui était le film qu'il avait tourné et une deuxième partie qui était le même film, mais à l'envers. Et donc, cette bande Lumière dure deux fois plus que les autres. Voilà. Ça, les films Lumière durent ça à peu près 57 secondes. Celui-là dure le double. Voilà. Et c'est donc un événement aussi de ce point de vue-là. Parce que bon, on va vers la durée, on accroît la durée des enregistrements. Donc, il y a quelque chose de très fondateur. C'est-à-dire, l'idée que le monde puisse être renversé dans le visible, c'est une idée nouvelle. C'est une idée que personne n'avait eue. On le renversait en imagination, on le renversait en littérature, il y a quantité, ben je sais pas, quantité de livres qui nous donnent cette idée que on refait le monde à travers les mots. Bon, et là c'est à travers les images. Et du coup,
et ça pose évidemment, et on va y revenir, la question centrale qui occupe beaucoup des essais qui composent ce livre, qui est celle du temps et de la manière dont le cinéma a transformé notre expérience du temps. Mais avant cela, Jean-Louis Comolli, j'aimerais qu'on s'arrête sur un deuxième moment historique comme celui-là qu'on peut considérer un peu comme l'invention du travelling. Parce que...
Ah oui, c'est un moment magnifique. Magnifique. Alors, vous savez que Louis Lumière filmait, mais on avait confié, les frères Lumière avaient confié des cinématographes à toute une série d'opérateurs qui sillonnaient le monde, à la fois pour promouvoir le cinématographe et en même temps pour fabriquer des films qui nous montraient le monde. Voilà, cette idée que le cinéma avait tout de suite à faire avec le monde et le monde entier est immédiate. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est pas un art replié sur lui-même, c'est un art en expansion qui, voilà, c'est pas encore un art d'ailleurs, mais disons une technique en expansion. Et donc, très, très extraordinairement, un de ses opérateurs, Alexandre Promio, qui était probablement le plus brillant d'entre eux, bon, a eu l'idée de filmer le Grand Canal à Venise.
Mais il a eu l'idée parce qu'il a d'abord fait l'expérience de se déplacer sur ce Grand Canal, comme on le fait quand on va à Venise.
Quand vous descendez de la gare à la lagune, c'est ce qui se passe. On fait une sorte de travelling latéral et on voit les palais. Et donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant pour moi, fondateur. C'est que, encadrant ce défilement du paysage, en l'occurrence de Venise,
des palais,
voilà. La question s'est posée pour lui, une question qu'on ne se pose plus jamais. Ce qu'on voit, c'est des immeubles mobiles. Hein. Et donc la question s'est posée d'une ambiguïté possible entre une nouvelle pensée qui serait celle que la caméra se déplace devant un décor fixe et du coup découvre peu à peu les choses, et une autre idée qui appartient au monde ancien, d'une certaine façon au monde fantasmatique, au monde des contes et légendes, qui est que ce sont au contraire les immeubles qui bougent dans le cadre. Voilà. Alors ça, et ça lui a fait peur. Et il a envoyé un message à Louis Lumière en disant « Est-ce que je peux continuer, bien que ce soit quelque chose de bizarre ?» Il trouvait que c'était bizarre. Et effectivement,
il invente le travelling et demande l'autorisation, finalement, d'en
faire après coup, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'arrête ? Voilà. Alors les frères Lumière, non, continuez. Et en fait, cette question, personne ne se la pose plus. Nous voyons aujourd'hui des tas de travelling tout le temps.
Sauf parfois, vous dites, à raison, dans un train,
quand on est assis dans un compartiment et que par la fenêtre des trains bougent et qu'on croit que c'est le nôtre qui bouge, on est exactement dans cette situation où les mouvements à l'intérieur d'un cadre sont en deux dimensions et donc il manque la troisième et donc les deux dimensions créent une illusion dans laquelle on ne sait plus très bien si ce qui bouge c'est nous, notre regard, ou si ce qui bouge, ou le regard de l'opérateur, ou si ce qui bouge c'est des choses filmées. Voilà. Et quand on voit assis dans un train le quai, les autres trains défiler, ce qu'on voit c'est en fait nous sommes fixes et c'est les autres qui bougent.
Alors, ces moments historiques sont très importants parce qu'ils permettent de saisir au fond comment le cinéma a transformé très profondément notre rapport au monde, comment le cinéma finalement est devenu aussi une sorte, j'allais dire, d'épistémologie partagée par tout un chacun, par n'importe quel spectateur.
Absolument. Oui, et je dirais même partagée de plus en plus aisément.
Et largement.
Voilà, largement et sans se poser de questions.
Comme un ça va de soi.
Voilà, comme ça va de soi. C'est-à-dire que la nouveauté, disons, amenée par une technique, la reformulation du monde visible, construite par une nouvelle technique, finit par être incorporée, acceptée, apprivoisée, et plus personne ne se pose la question. Aujourd'hui, aucun spectateur ne va vous dire « Attention, c'est les palais de Venise qui bougent !» Non, je crois que c'est devenu impossible. Alors, donc, ça prouve quoi ? Ben, ça prouve que le cinéma formate peu à peu les spectateurs, et que non seulement il formate les spectateurs, mais qu'à travers les spectateurs, il formate les regards, la façon de voir, la façon de comprendre ce qu'on voit. Et cette fonction de formatage, j'appelle le mot formatage parce que c'est celui que les télévisions utilisent pour normaliser les films, en quelque sorte, bah, c'est une fonction très importante. Le regard du XXe siècle, qu'on n'a pas trop analysé en tant qu'historique, le regard du XXe siècle a été façonné par le cinéma. Voilà. Et la puissance de l'image est apparue à ce moment-là comme une puissance qui n'était plus imaginaire, qui était concrètement visible. Je donne l'exemple aussi, pardon, Sylvain, des premières projections de l'entrée du train en gare de La Ciotat, où des spectateurs, dans la salle, c'est les journalistes présents qui le racontent, des spectateurs poussent des cris, ont peur. Alors, évidemment, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, les spectateurs. Enfin, je veux dire, on est à égalité ensemble. Mais ils ont eu peur devant quoi ? Pas devant l'entrée impossible et inimaginable d'une locomotive dans la salle de projection. C'eût été parfaitement idiot. Et ils ne l'étaient pas. Et ils ont eu peur devant la puissance de l'image. Brusquement, cette image leur faisait peur. Parce qu'elle démontrait la puissance de la chose. Elle l'amplifiait.
Bigger than life.
Voilà, exactement. Et ça, ça fait peur. La puissance de l'image a fait peur aux premiers spectateurs. Après, s'ils sont habitués, ils l'ont désiré, ils l'ont voulu, ils en ont rajouté. Voilà.
Alors, le cinéma a changé énormément de choses, vous le disiez, dans notre manière de voir, en particulier la conscience, même si elle est parfois inconsciente du cadre. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dupe non plus, même si évidemment voilà. Chaque fois on ne fait pas l'effort critique. On a appris à voir à travers des cadres et on a appris à savoir qu'il y avait... des cadres, et de plus en plus de cadres, parce qu'à mesure que les écrans se démultiplient et qu'on se promène désormais avec un écran de smartphone dans la poche, les choses se sont complexifiées.
Alors voilà, c'est une manière de caractériser les temps actuels. C'est la multiplication des écrans, voilà, tout simplement. C'est-à-dire, imaginons un homme du XVIIIe siècle, il n'avait aucun écran, sauf éventuellement une loupe
miroir de poche. Miroir de poche, miroir nous de disent poche. Un miroir, certain nombre d'historiens.
Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des multi-écrans. Bon, le téléphone portable, l'ordinateur, plus éventuellement un petit projecteur pour voir des films ou des... Bon, et puis voilà, et ainsi de suite. Donc, quelque chose a été changé dans le monde avec l'apparition des écrans et leur multiplication. Bon, évidemment, ça semble aussi aller de soi, mais ça ne va pas de soi. Il est évident qu'aujourd'hui, pour voir, il faut cadrer. Voilà. Ce qui n'était pas le cas il y a un siècle ou deux. Vous avez vu comme moi les touristes, pas forcément japonais ou chinois, mais enfin, qui descendent d'un car et qui commencent à mettre l'appareil en route avant même d'avoir jeté un coup d'œil sur le décor. Moi, je les vois et je suis fasciné. Et c'est vrai que
on
ça...
voit à travers.
Eh oui, voir à travers, voir cadrer. Alors cette question du cadre, pour moi, est une question vraiment névralgique, parce que avec nos deux yeux, on ne cadre pas. Voilà, le regard binoculaire est un regard par définition non cadré, c'est-à-dire le champ visuel est large, très étendu, et n'est pas défini par des limites. Les limites, je ne les vois pas. Voilà, il y en a, mais elles ne sont pas visibles. Et donc le cadre ajoute, évidemment, un centrage, un soulignement de ce qui est cadré. Ce qui est cadré prend une valeur plus forte que ce qui n'est pas cadré. Et du coup, nos contemporains et moi-même et nous-mêmes, nous sommes portés à voir à travers des cadres. Et ça, je trouve ça très, très positif d'une certaine façon. Je ne le critique pas du tout. Je m'en émerveille au contraire parce que ça veut dire que la perception du cadre progresse. Alors évidemment, beaucoup de ceux qui filment avec leur téléphone portable, bon, ils cadrent par la force des choses, ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne dirais pas que pour autant ils ont un souci du cadre, pas forcément. Mais en tout cas, ils cadrent. Voilà. Donc la pratique du cadre, c'est généralisé.
Mais ce qui est très intéressant et à mettre en relation avec le fait, parce que je l'entendais récemment, qu'au fond, de nouvelles technologies qu'on nous avait promises comme celles de l'avenir, à savoir les Google Glasses, par exemple, qui ressembleraient à la vision naturelle avec les deux yeux, ne marchent pas commercialement. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une préférence pour le cadre.
L'artifice, de nouveau, est ce qui est désiré. Alors, tout le monde, une partie de la philosophie ou de la réflexion insiste sur la nature, le naturalisme, la naturalité, la ressemblance, mais chez le spectateur, pas seulement de cinéma, il y a l'idée que, passant par l'artificiel, on gagne quelque chose. Voilà. On gagne quelque chose parce que c'est une manière aussi de mettre le monde des sensations, des émotions visuelles à distance. Cette question de la distance, et vous le savez, est une question vraiment importante, parce que éviter d'être submergé par le flux des stimuli visuels. Or, nous le sommes, et filmer à travers un cadre ou faire des images à travers un cadre, c'est justement se protéger contre ce flux incessant. Et donc, amener un filtre, au fond, hein, qui le tamise. Voilà. Et ça, c'est une protection que le sujet met en place pour s'épargner d'être débordé en permanence par les stimuli. Ah oui, alors évidemment, là où on entre dans une critique, disons, d'un certain cinéma, c'est qu'il y a évidemment des films ou des émissions ou des bandes de télévision, peu importe, mais qui travaillent sur la multiplication des stimuli. Voilà. Et donc là, le spectateur est entraîné dans une sorte de courbe exponentielle où il va être submergé par les stimuli à l'intérieur des écrans. Bon. Et on n'est pas sûr que ça lui donne une distance critique.
Alors, l'autre grand domaine dans lequel le cinéma, il y a la vision dont on vient de parler, mais dans lequel le cinéma a profondément transformé notre rapport au monde en plus d'un siècle, c'est celui de notre rapport au temps, qui est l'un des objets centraux de votre réflexion, oui. Jean-Louis Comolli, parce qu'évidemment avec l'art du montage, la capacité à concaténasser en quelque sorte le temps, la capacité aussi pour le spectateur, parce que le pouvoir n'est pas contre les mains du réalisateur, de zapper. Moment très très important et pratique aujourd'hui central, un nouveau rapport au temps s'est progressivement engagé.
Oui, et une autre définition du temps. Un temps fragmenté, un temps abrégé. Voilà, je prends l'exemple très simple. Quand on filmait quelqu'un qui traverse la rue, autrefois, il traversait la rue. Aujourd'hui, il ne traverse plus la rue. Il prend son élan, il pose un pied par terre et il est de l'autre côté de la rue. Et donc, on a abrégé beaucoup, beaucoup, beaucoup des gestes de la vie ordinaire. Et donc, c'est un monde abrégé, un monde qui préfigure déjà...
Un monde de l'ellipse,
oui,
qui était familière dans le roman. Dans...
Voilà, mais que le cinéma a mis longtemps à intégrer. Et cette abréviation du monde, étrangement, recoupe les procédés de numérisation, parce que vous savez qu'en numérisant, on fait des compactages, hein, on fait des échantillonnages, c'est-à-dire qu'on ne numérise pas l'ensemble du champ visible à travers un écran, mais seulement une partie. Voilà. Et ça, c'est très troublant, parce que ça veut dire que dans le numérique, il y a ce régime d'abréviation.
Ce que le cinéma d'animation faisait depuis longtemps, sans quoi il n'aurait pas pu exister. Et ce que même certains faisaient en trichant, vous citez le cas de Warhol,
oui.
avec John Journeau, sur du faux temps réel, en quelque sorte.
Voilà, le temps réel était falsifié, en quelque sorte, voilà, en dupliquant des morceaux de sommeil et en les mettant plusieurs fois dans le montage. Parce que, au fond, un homme qui dort, il dort et si le cadre ne bouge pas, c'est toujours une image équivalente. Voilà. Alors ça, c'est une des questions. C'est-à-dire que la machine cinéma, sans qu'on l'ait pensé tout de suite, est une machine à enregistrer le temps qui passe. Voilà. On enregistre le temps qui passe. Si je filme une pomme pendant 5 minutes, je filme un objet qui bouge dans le temps, sur lequel le temps passe. Au bout de 5 minutes, c'est pas la même pomme qu'avant. Voilà. Donc, cette idée du temps qui passe est une idée absolument centrale, parce que c'est à ça que le spectateur a d'abord affaire. Il a affaire au cadre en tant que limite spatiale, visuelle, mais il a affaire à la durée en tant que limite temporelle. Et la rééducation ou l'éducation du spectateur est beaucoup passée par l'apprentissage, la maîtrise des durées. Voilà.
Là, il y a une œuvre absolument emblématique qui me vient à l'esprit, c'est The Clock de Christian Marclay, cet artiste contemporain qui a fait un film de 24 heures en prenant que des scènes dans lesquelles on voit des horloges qui indiquent l'heure qui
mais voilà.
Progresse.
Oui. Ben c'est des, enfin, le temps de traîne depuis très longtemps, depuis qu'on a tenté de le penser, Saint Augustin en premier, le temps est le lieu des paradoxes. Voilà, nous sommes en plein paradoxe. Ce qui est présent est aussi passé, est aussi futur, etc. etc.
Mais alors, un paradoxe intéressant dans l'évolution récente, vous en parlez un tout petit peu, là où on pourrait croire que, et c'est pas complètement faux, qu'il y a des phénomènes d'accélération qui sont manifestes et qu'on peut observer de bien des manières, il y a aussi parfois le contraire de ça, des formes de peut-être de réaction, de ralentissement. Moi, j'aurais tendance à rapprocher peut-être le succès des séries télévisées,
oui, oui.
Le plaisir qu'on peut avoir à laisser le temps s'écouler sur des très longues durées pour vieillir avec des personnages, comme une forme de réaction au
mais
fond à tous les phénomènes d'accélération.
D'accord, c'est exactement ça. Le cinéma a été victime du principe d'accélération que beaucoup d'autres domaines ont suivi.
Jusqu'au fast-food ou
voilà tout. Disons simplement la bourse, par exemple, c'est formidable, c'est la bourse.
La fréquence, le trading à haute fréquence. Voilà,
j'ai amené le trading à haute fréquence. Bon, c'est carrément le quart de millième de seconde qui joue. Donc des durées qui sont insaisissables pour l'esprit.
Incommensurables pour nous.
Ben oui, notre rapport au temps ne se compte pas en quart de millième de seconde. Voilà. Et donc, l'idée que les séries étire le récit, la narration sur des durées bien plus longues que celles que le film standard peut connaître, ben c'est une idée très forte, j'en suis bien convaincu. Alors, je rappelle simplement que les séries ont commencé au tout début de l'histoire du cinéma. Les araignées de Fritz Lang, bon voilà, c'était une série de 7 heures qui ressemble aujourd'hui aux séries télé, aux séries de Netflix, etc. Mais il y avait déjà l'idée qu'il fallait durer. Voilà. Quand, encore plus tôt, quand Georges Méliès a fait un film qui s'appelle L'affaire Dreyfus, excusez-moi, c'est quand même pas mal, c'était donc autant que je m'en souviens en 1921 ou quelque chose comme ça, eh bien il a été obligé de multiplier les épisodes parce que évidemment l'affaire Dreyfus ne tient pas sur une seule bobine de film de l'époque, il fallait donc faire une série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc il a pas inventé, mais enfin il a participé à la mise en place de l'idée de série qui a été exploitée ensuite par les cinéastes de fiction dont Fritz Lang. Voilà, les Nibelungen, le je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, beaucoup de films de ces premières années sont des séries. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les voit plus beaucoup et qu'il faudrait peut-être penser à les remettre en circulation. Parce que voilà, 7 heures de Fritz Lang, c'est mieux qu'une heure.
On continue de parler de cette mutation numérique, de ce qu'elle fait au cinéma. Dans la deuxième partie de l'émission, ce sera avec la réalisatrice Dominique Cabrera. Mais avant ça, on va remonter le temps sans tout à fait complètement le remonter en écoutant un extrait d'un nouvel album d'un groupe qui avait disparu pendant 20 ans. Et ça, c'est la version qu'un des membres du groupe, Terry Hall, remet à jour. C'est The Specials avec Vote For Me.
La suite dans les idées. Sylvain Bromont.
Cinéma, numérique, survie, c'est le titre du livre de Jean-Louis Comolli dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, un livre qui paraît aux éditions de l'École Normale Supérieure et on en parle dans cette deuxième partie avec Dominique Cabrera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, on vous doit de nombreux films de fiction, de documentaires, même si parfois la distinction entre les deux n'est pas toujours forcément pertinente parce que la fiction se nourrit aussi beaucoup d'éléments du monde réel. Le dernier film que vous avez sorti, c'était Corniche Kennedy, Dominique Cabrera. Je voudrais qu'on reparte d'un des mots qui figure sur la couverture et donc dans le titre du livre de Jean-Louis Comolli, qui est celui de survie.
Vous avez lu dans mes pensées. Là, je suis battue. Ben oui, oui. Évidemment, après le constat du docteur Comolli, on a envie de lui demander les remèdes, hein, surtout quand on est cinéaste et même d'ailleurs quand on est spectateur, parce qu'on voit comment l'accélération déshumanise le monde et aussi malheureusement le cinéma, mais nous qui continuons d'aimer le cinéma et de vouloir en faire, comment faire, docteur ?
Parce que le cinéma reste l'affaire de l'homme, voilà, inévitablement. Il a été créé pour ça, hein, tout à fait. Les frères Lumière avaient en tête de représenter un monde où les hommes étaient présents, les animaux aussi, bien sûr, il y a des chevaux, etc. Des chiens, dans le premier film, il y a un chien et un cheval. Mais il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Donc c'est l'affaire du cinéma, elle est quand même anthropologique, fondamentalement. Il s'agit quand même de donner... de montrer, de manifester le lien entre l'homme et le lieu. Voilà, c'est ça le projet Lumière. L'homme et son décor, comme on dirait aujourd'hui. Bon, parce que ce lien est très fort et qui configure, sans qu'on s'en doute, il configure notre manière d'être, nos relations avec les autres, notre présence au monde. Et c'est ce lien qui est en partie... détruit non pas par le numérique, encore que le numérique y participe, puisqu'il permet de mettre un corps sur un autre décor, et qu'on y croit, un trucage majeur. Bon, mais le lien est aussi détruit très directement par ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui justement défait les liens entre les hommes d'une part, entre l'homme et son lieu de travail, etc.
Dominique Cabrera, donc en gros la réponse est quand même le cinéma il est ce qu'on en fait. Il y a quand même une idée de l'usage, des pratiques qui sont importantes. Oui. Il n'y a pas de déterminisme nécessairement de la technique, non ?
Oui, enfin quand même, c'est la technique nous impose une manière de faire. Je me souviens d'une conférence qu'avait fait Jean-Louis il y a très longtemps, manière de faire, forme de pensée, oui. À laquelle je pense souvent quand je suis en but. Avec les outils.
Dans des situations concrètes.
Oui, dans des situations très concrètes. Jean-Louis finit son livre en disant « Je choisis l'amour du cinéma plutôt que la passion des images. Ouais. » Et là, je trouve que c'est très très juste. C'est-à-dire que on est comme entraîné en fait par les outils vers la passion des images. Alors que l'amour du cinéma, c'est quoi en fait ? C'est vraiment une question que moi je me pose tout le temps en fait. Quel est le plaisir que j'éprouve ? Un plaisir. Même le mot est pas tout à fait juste. C'est comme si ma vie était justifiée quand j'y arrive.
Bravo.
C'est-à-dire que quand j'arrive à ce que dans une séquence, dans un film, dans un moment, il y ait quelque chose de l'amour du cinéma, mais c'est quoi en fait ? Ça veut dire que dans ce moment, il y a eu la polyphonie de la vie qui est entrée. Alors je sais pas comment. Enfin, on peut pas le décider. On peut essayer de le faire avec et évidemment
de le faire advenir
avec les outils numériques aussi, mais il me semble que dans la chaîne de travail du cinéma traditionnel, c'était plus simple en fait. Avec les outils numériques, il faut comme se débattre avec cette espèce de flux qui nous porte vers les images plutôt que le cinéma. C'est quand on arrive à ce que ce soit innervé par une polyphonie. C'est-à-dire, c'est en plusieurs dimensions, en fait. Je sais pas comment le dire. Il y a passé, présent, futur, qui sont là par la grâce de la relation avec les autres. C'est quelque chose comme ça. C'est arriver à être ouvert, à ouvrir le film. C'est assez difficile à décrire, mais on sent bien quand ça circule.
Oui. C'est la question de l'improvisation aussi.
Voilà,
dont vous parlez,
c'est
Jean-Louis
très important.
La musique, en fait.
Ah, pour moi, ça a été.
Parce que la musique, c'est un art du temps.
Oui, parce que là. Le spectateur de cinéma a la conviction que ce qui arrive dans un film lui arrive à lui pour la première fois. Voilà. Et cette notion de première fois est
juste.
Tout à fait paradoxale, puisqu'on sait bien qu'un film a déjà été tourné, a déjà été vu,
a déjà été montré, avant
etc.
d'être filmé.
Oui, voilà, tout a déjà eu lieu. Pourtant, ça revient comme première fois. Mmh. C'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose, moi j'appelle ça une aura spectatorielle, en me référant de manière ironique à Benjamin.
Une aura reproductible, en quelque sorte.
Parce que ça arrive tout le temps. Voilà. Même quand vous voyez un film pour la deuxième fois, il arrive toujours pour la première fois. Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est que nous avons besoin d'un rapport au monde qui soit, que nous co-construisons, voilà, avec le reste. Mmh. Et nous, donc, notre présence est nécessairement une présence au présent. Voilà. Il n'y a pas d'autre manière de voir un film qu'au présent. Alors, ça, c'est une question, je reviens sur ce que disait Dominique. L'argentique, avec tous ses défauts, capte, reproduit un monde non parfait. Un monde où il y a trop. Voilà, il y a trop de visibles, il y a trop de
hirsutes.
Moi, je dis le touffu. C'est, voilà, le monde est touffu. Et le cinéma capte ce touffu. Le numérique, sa fonction, entre autres, c'est une fonction hygiéniste. Il passe le balai et il enlève le touffu, il enlève la poussière.
Donc, on est obligé de travailler pour que ça redevienne touffu.
Voilà, mais il faut...
Dans le numérique.
Voilà,
sale, abîmé, etc. Mais c'est possible, mais c'est un autre travail.
C'est l'histoire de...
Il y a des effets, d'ailleurs, qui existent pour ça, pour faire vieille pellicule ou
abîmé. Enfin, au-delà des effets folkloriques, mais c'est vrai que c'est un... Non,
je prends
problème.
Un exemple caricatural,
c'est vrai. On en discute avec, par exemple, avec Hélène Ouvard, ma directrice de la photo, on a parlé de ça. Comment faire pour que l'image ne soit pas clinique?
Voilà. C'est pas évident.
Ben non, mais c'est possible.
Alors,
c'est
l'histoire de Boviala avec sa caméra à Todd. Bon, tous les chefs opérateurs qui connaissent très bien Boviala, puisque Boviala était très lié au monde du cinéma, bon, lui ont fait remarquer, il avait compris aussi, que l'image numérique est fixe. Elle est figée. Les pixels se remplacent les uns les autres à la même place. Alors que, évidemment, l'image argentique, c'est des molécules qui circulent dans un bain. Et elles circulent comme elles veulent. Je veux dire, voilà, entre un photogramme et le suivant, on n'est pas, les molécules d'argent ne sont pas exactement à la même place. Et donc, il y a une certaine vacillation, un certain flou qu'on pourrait appeler la vie, tout simplement. Mmh. Et donc, Boviala, extrêmement d'accord avec cette idée, a inventé un principe qui fait que les capteurs, il y a pendant une fraction de seconde, les pixels se déplacent. Et donc du coup, cet effet de vie, sauf qu'il l'a fait au niveau artisanal expérimental et qu'il n'a pas trouvé une entreprise, les grands fabricants de capteurs, les Sony, les Panasonic, etc.
Ils développeraient.
C'était trop compliqué.
On va chercher à le faire autrement, en fait.
Cabrera, il y a une autre question dont on n'a pas parlé, mais qui rejoint un peu celle que vous posiez à l'instant, qui est celle du travail. Jean-Louis Comolli, dans ce livre, se pose la question de la part visible du travail qu'on doit laisser dans une œuvre, ou est-ce qu'on doit essayer d'être totalement transparent par rapport à ça, faire comme s'il n'y avait pas eu de travail? Comment régler cette question?
Moi, je pense que je n'emploierais pas le mot « doit » ou « régler », justement. Je trouve qu'il faut laisser de la liberté aux artistes de trouver, de chercher, de tâtonner les moments de leur œuvre. Mais si je pense au film que j'ai aimé, par exemple l'année dernière, L'Académie des Muses de José Luis Guérin, vous l'avez peut-être vu, ou bien dans un autre film très différent, Leave No Traces de Debra Granik. Enfin voilà, les films que j'ai aimés. Dans les films que j'ai aimés, qui sont très différents en termes de production, de récit, je crois qu'il y a toujours, parallèlement au grand récit, quelque chose comme qui est inscrit comme l'histoire de leur invention. Et l'histoire de leur invention, c'est quoi? C'est du temps.
Eh oui.
Et quand dans une œuvre est inscrit du temps, on éprouve un plaisir plus grand. C'est-à-dire que on se sent relié au monde, parce que le temps, c'est ce qui nous traverse.
Et ça peut être donc le temps de l'élaboration de l'œuvre elle-même, en quelque sorte.
Oui, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, oui. On est toujours
pas
plus heureux quand...
Pas forcément littéralement.
Oui, pas forcément littéralement. Mais quand le temps de l'œuvre est inscrit dans l'œuvre, il y a quelque chose de plus vivant.
C'est très juste. Alors, dès le premier film, sorti d'usine, par la grâce du cinéma, non encore existant, Louis Lumière a filmé la porte de son usine, les deux portes de son usine par lesquelles les ouvrières et les ouvriers sortaient. Et c'est quoi? C'est un cadre dans le cadre. Donc une sorte de mise en abîme initiale. Le cinéma commence par la mise en abîme du cadre. Et c'est une manière, sans qu'il l'ait perçu, sans qu'il l'ait compris, sans qu'il l'ait voulu, c'est une manière d'alerter le spectateur sur le fait qu'il y a du cadre. Or le cadre, c'est l'inscription du travail. Voilà, parce que le cadre ne naît pas dans la nature, ne sort pas ne tombe pas des arbres. Le cadre, nous le fabriquons. Voilà, nous fabriquons. Donc le cadre s'oppose à lui seul à toute pensée hyper naturaliste du cinéma. Le cadre, c'est l'artifice.
Mais je dirais même que l'improvisation, ça pourrait être un des remèdes. C'est-à-dire, inscrire l'improvisation dans l'invention du film, c'est une manière d'inscrire le travail, le tâtonnement et le mouvement de la vie.
Mais bien sûr, oui.
Et la, l'excellence aussi.
On trouve ça et chez Godard et chez Rosier, par exemple, qu'on oublie de citer toujours et qui est vraiment un cinéaste important, je trouve. Mais on le trouve aussi chez beaucoup d'autres, où l'idée que la façon dont le film se fait, c'est l'histoire du film. Le film raconte l'histoire de sa naissance. D'une manière, alors il raconte pas que ça, il raconte d'autres choses, mais ça y est, c'est un noyau dur à l'intérieur du film, qu'on peut d'ailleurs voir ou pas, peu importe, mais il est là.
Vous, dans un chapitre au moins du livre, vous faites un parallèle avec un autre domaine que vous connaissez bien, qui est le jazz.
Oui.
Dominique Cabrera en parlait à l'instant, et c'est pertinent notamment pour ces questions d'improvisation, mais aussi pour des questions de rythme, de cadence, de tempo, dont on n'a pas parlé encore. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé dans ce livre dense.
Je me suis même demandé, en lisant ce passage, si tu n'avais pas, en fait, dans un film où tu fais cadrer du jazz, pensé à travers le fait d'inventer la séquence.
Ah ben oui, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, ce que tu dis est intéressant. Non, la force du jazz, elle est en grande partie liée au hasard, au rôle du hasard. C'est précisément le hasard, la coïncidence,
la sérendipité,
la relation. Brusquement, deux musiciens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas répété ensemble, qui n'ont pas une partition, se mettent à jouer en accord. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est une grâce exceptionnelle. Et donc, la musique nous permet ça. C'est moins facile au cinéma. L'improvisation au cinéma est presque toujours un artifice. Mais bon, en même temps, c'est très important.
Moi, je trouve pas.
Dans le cinéma dit documentaire, oui, c'est génial, parce qu'on découvre les choses au fur et à mesure qu'on les filme. Mais bon, c'est pas possible, c'est moins possible dans la fiction.
Oui, c'est plus difficile, c'est vrai. C'est plus difficile, parce qu'on est dans l'armée, en fait, quand même, dans l'organisation matérielle. Il y a un côté militaire. Mais justement, en même temps, c'est là où c'est plus...
C'est là où, si on arrive à le faire, c'est génial.
Oui, c'est comme... t'as un orchestre devant toi, alors.
Oui, mais là-dessus, bon, les maîtres, on les connaît. Bon, Rossellini, par exemple, a réussi ça magnifiquement.
Bah oui, exactement, oui.
Eh bien, les émissions aussi ont des durées. On touche à la fin de celle-ci, même si je sens...
Mais il faut prononcer le mot résonance.
Ah oui, ça c'est très important.
Résonance, parce que là, il vient un point. Enfin, excusez-nous, là, on déborde.
Je sens que le dialogue va continuer, tant ce livre est passionnant et dense. Cinéma numérique survie, c'est son titre. L'auteur Jean-Louis Comolli, merci. Et merci à Dominique Cabrera. On trouve la référence bibliographique sur la page de l'émission de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez également réécouter autant de fois qu'il vous plaira. Même peut-être à l'envers, si vous trouvez un moyen de le faire, cette émission, et puis vous abonner au podcast.
Surtout à l'envers.
Merci, à l'envers, c'est génial. Bravo.
C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmois, attaché de production, Chouchan Djergaillan. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. À la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.